Nous allons nous tourner vers la première épître de Timothée, au chapitre 3, versets 14 et 15. Et la première épître à Timothée, comme la seconde d'ailleurs, sont des instructions laissées à ce jeune serviteur de Dieu, qui était Timothée, qui était mentorisé par l'apôtre Paul, on peut dire comme ça. L'apôtre Paul était son mentor. Et il va lui dire, « Je t'écris cela », ce que l'apôtre Paul écrivait, « Je t'écris cela avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir. » Vous voyez, ce sont des choses pratiques. La communion fraternelle, comme ça a été souligné ce matin, n'était pas dans l'église primitive, la première église, celle des premiers temps, celle que Jésus a fondée, n'était pas une belle chose, c'était quelque chose de réel. Les historiens racontent que le monde de l'époque disait à propos des chrétiens, alors il y avait ceux qui persécutaient les chrétiens, mais il y avait aussi ceux qui les admiraient et qui disaient « Voyez comme ils s'aiment !» Donc ce sont des témoignages de l'histoire, des historiens. Et donc l'amour fraternel était une réalité, la communion des saints, la table de communion, comme c'était souligné, le rassemblement des saints était une réalité, et nous voulons la vivre avec la même force que l'Église primitive, parce que Dieu n'a pas changé, Jésus n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et c'est lui que nous suivons. Donc l'apôtre Paul dit « Je t'écris cela avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » J'aime bien le sens de la formule de l'apôtre Paul. Il y a une certaine emphase, là, il y a un certain style littéraire. Et comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Le titre de mon message serait « Savoir se comporter dans la maison de Dieu ». Parce qu'il nous est dit « Tu sauras ». Et nous avons besoin de savoir, nous avons besoin d'être enseignés par la parole de Dieu. Pour que aussi cette parole puisse être plantée dans nos cœurs, il faut que l'Esprit de Dieu l'illumine, qu'il la transporte, qu'il la véhicule, et qu'il l'imprime, qu'il l'implante vraiment en nous, dans notre cœur, afin que cela puisse devenir notre ADN, l'ADN de notre Église. Moi je crois dans l'ADN de l'Église, l'ADN spirituel de l'Église primitive, c'est celle qui est la meilleure, et nous devons adopter cet ADN-là. Donc nous avons besoin de savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La première question qu'on est amené à se poser, c'est le premier point, qu'est-ce que la maison de Dieu? Le grec pour définir cette maison dont il est parlé, c'est « oikos ». Et quand vous avez par exemple déjà, c'est pour prendre une comparaison, celui qui parle en langue, s'édifie lui-même, eh bien vous avez déjà ce mot qui est là, oikodoumeo, bâtir sa maison, construire sa maison, d'où l'importance du parler en langue pour s'édifier soi-même. Eh bien c'est encore ce mot oikos qui désigne une maison habitée, qui désigne un tabernacle, qui désigne un palais. C'est pas n'importe quelle maison, c'est une maison ornée, c'est une maison qui est spéciale dont il est question ici. C'est une maison illuminée de clarté, c'est un palais, un tabernacle, et c'est ce que nous sommes, parce que la maison de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est dit dans mon passage, c'est l'Église du Dieu vivant. Dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, l'Ecclésia du Dieu vivant. Le grec « Ecclésia » signifie « appelé hors d'eux », donc ceux qui forment l'Église. Ceux qui composent l'Église sont ceux qui ont été appelés hors de quoi? Du siècle mauvais. L'apôtre Pierre prêchera un discours et dira « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Échappez à la condition de cette génération perverse, de cette génération qui aussi est perdue si elle ne vient pas à Jésus. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » dit-il. Et il n'y a pas d'autre chemin. Et la véritable Église, on va voir ce qu'elle est, c'est l'Église qui est composée de ceux qui sont appelés hors de ce siècle mauvais, qui ont été appelés par le Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 6, dans la Nouvelle Bible seconde, c'est traduit ainsi, « Or sa maison, c'est nous les croyons, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui appartenons à Jésus-Christ, or sa maison, c'est nous, si nous conservons l'assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. » Louis II, l'ancienne version, traduit « Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » La maison dont il est question ici, c'est donc l'Église du Dieu vivant, et cette Église, elle est composée de toutes les personnes, sur toute la surface de la Terre, évidemment, dans tous les pays, y compris le nôtre et y compris à Charleville, de toutes les personnes que Dieu a connues et qu'il a appelées par sa grâce dès avant la fondation du monde. De toute éternité, Dieu a eu conçu le plan, eh bien, de nous appeler hors de ce siècle mauvais, hors de cette génération qui s'opère, hors de la perdition, à nous, bien entendu, de répondre à son appel, à son invitation, et de prendre de l'eau de la vie gratuitement, comme c'est écrit, et de marcher avec lui à sa suite, et de vivre de cette grâce qu'il veut nous offrir, à laquelle il nous invite, au salut de Dieu, qui est un pack complet qui nous est offert. Vous savez, des fois, vous avez des offres comme ça, avec un pack complet intégral, et bien Jésus nous offre le salut. Et dans le salut, il y a le pardon des péchés, dans le salut, il y a l'amour de Dieu, dans le salut, il y a eh bien, la joie, il y a la paix, il y a la grâce, et il y a le baptême dans le Saint-Esprit, il y a toutes sortes d'autres choses. D'ailleurs, ce n'est qu'une liste qui n'est pas complète. Et qu'est-ce qu'il y a encore dans ce pack? Il y a même la guérison divine, guérison de nos cœurs, guérison de nos âmes, nous en avons véritablement besoin, guérison physique quand cela est nécessaire. Tout cela est dans le pack intégral qui nous a été offert en Jésus-Christ. Et nous sommes la maison qui porte l'ensemble de ces promesses et à qui elles sont destinées. L'Église du Dieu vivant, composée de toutes les personnes que Dieu a connues et a appelées par sa grâce dès avant la fondation du monde, et qui retiennent l'espérance, comme nous l'avons lu, donc c'est-à-dire ceux qui persévèrent et qui marchent en vainqueur, car le livre de l'Apocalypse nous dit « À celui qui est vainqueur, je donnerai. » Alors, il y a plusieurs récompenses. Il faut lire l'ensemble des sept lettres aux églises dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Et vous trouverez les références qui vous parlent de cette vie de victoire à laquelle nous sommes appelés. Des fois, j'entends des gens, quelqu'un m'a raconté une histoire, et je sais très bien que c'est vrai, de ce qu'aurait dit un esprit mauvais. Mais vous êtes intéressé, vous, par ce que disent les esprits mauvais? Est-ce que vous croyez ce que disent les esprits mauvais? Quand bien même il dirait quelque chose de vrai, est-ce qu'on doit en tenir compte? Non, ce qui m'importe, moi, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et Dieu ne fait jamais défaut. Et Dieu est plus puissant que n'importe quel démon, n'importe quel homme, n'importe quelle entité. Il a dit, et moi c'est ce que je retiens, vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, c'est absolu, rien, ne pourra vous nuire. Alors quand j'entends parler parfois que tel démon, tel machin, mais là, deux ou trois sont réunis, je suis. Vous savez qui est je suis? C'est l'Éternel qui s'est manifesté devant lui, c'est le Yahvé, le Dieu créateur. Il est au milieu d'eux. Qu'est-ce qui peut finalement nous perturber dans une réunion? Si nous avons confiance que Dieu est au milieu de nous, quand nous en avons conscience, que nous avons confiance en lui également, eh bien rien ne peut se passer parce que nous appartenons à celui qui nous a rachetés par le sang précieux du Fils. Jésus-Christ. Nous ne sommes plus la propriété de Satan, nous ne sommes plus la propriété de nous-mêmes, nous appartenons à celui qui nous a rachetés, nous sommes devenus ses esclaves, ses serviteurs. Mais c'est quand même le mot doulos, esclave, qui est employé, mais nous sommes des esclaves volontaires, c'est-à-dire nous sommes mis à son service, nous l'avons suivi. Suivi, c'est un verbe d'action, ce n'est pas un verbe passif. Nous ne subissons pas le Seigneur, mais nous le suivons. Amen. Ça, c'est l'espérance de l'Évangile. Nous sommes appelés à persévérer, à marcher ainsi dans cette victoire qui nous est acquise. Donc les gens qui composent l'Église du Dieu vivant, ce sont ceux qui sont nés de l'Esprit, nés d'en haut, comme Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas d'Église. Toute organisation qui se réclame de Dieu sans être né de l'Esprit, sans être né de nouveau, est simplement une organisation humaine, une organisation religieuse, une société de bienfaisance peut-être, un club, une association, tout ce qu'on veut, mais ça n'est en aucun cas l'Église du Dieu vivant, parce que l'Église du Dieu vivant, elle est composée de pierres vivantes, elle est composée d'hommes et de femmes qui sont passés par un processus qui s'appelle la nouvelle naissance, et qui consiste pour Dieu à reconnecter le pécheur qui est déconnecté depuis sa naissance de Dieu, qui par la nature des choses, par même sa propre nature, a tendance plutôt à tourner le dos à Dieu que d'aller spontanément vers lui, eh bien ce miracle de la nouvelle naissance consiste en un processus que Dieu utilise pour nous reconnecter à lui en quelques secondes. Je me souviens la première fois que je suis venu dans une salle comme celle-là, j'ai entendu l'évangile, j'ai adhéré à ce que je comprenais, j'ai dit oui à Dieu, et immédiatement, dans le courant de l'après-midi, je sais que je suis né de nouveau, je suis devenu un enfant de Dieu, et je sais que depuis ce jour-là, j'ai vu le royaume de Dieu, et je participe au royaume de Dieu. L'Église, c'est celle qui participe au royaume de Dieu par la nouvelle naissance, qui consiste en cette régénération, en cette reconnexion, cette résurrection spirituelle, la résurrection de notre esprit qui se reconnecte à Dieu pour la première fois et qui va pouvoir communier avec lui. C'est ce qui va nous permettre de prier comme nous l'avons fait ce matin, de le louer, de l'adorer. Sans cela, c'est impossible. Je me souviens, avec la meilleure volonté du monde, quand je n'étais pas un disciple de Jésus, eh bien, j'avais beau essayer de prier, j'avais un mur. Et le fait, c'est que le mur, c'est notre péché. Notre péché, il constitue un mur entre nous et Dieu. Et tant que ce mur-là n'est pas résolu, tant que le poison qui nous envahit et qui s'appelle le péché est dans notre vie quelque chose qui règne par sa puissance, rien n'est possible. Mais en quelques secondes, par la nouvelle naissance, tout devient possible. Celui qui est en Christ devient une nouvelle créature, dit la parole de Dieu. Toute chose ancienne, alors, commence à disparaître tout doucement. Et les choses nouvelles commencent à venir, elles doivent se renouveler tout au long d'un processus qui dure toute la vie. C'est pour ça que nous avons besoin de guérison toute notre vie, besoin de restauration toute notre vie. Alors, ça peut aller plus vite pour les uns par rapport aux autres. Tout dépend de la manière dont nous faisons confiance au Seigneur et où nous abandonnons également à lui. Si nous résistons, si nous retenons les choses, si on ne lâche pas prise, eh bien le Seigneur ne peut pas agir. Et comme il est un gentleman, comme il est quelqu'un qui a du tact, eh bien, il ne va pas violer notre conscience. Il ne va pas nous forcer. C'est au fur et à mesure que nous adhérons aux principes qu'il nous enseigne, aux choses qu'il veut faire dans notre vie, si nous nous donnons à cela, alors il va pouvoir agir. Mais il faut que nous le laissions faire, et c'est volontairement qu'on le fait. C'était à Nicodème que Jésus a dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Donc l'Église est composée de gens qui voient le royaume de Dieu parce qu'ils sont nés de nouveau. Il dira encore, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut, naître du ciel, naître du royaume de Dieu. Naître d'eau et d'esprit, c'est parce que la nouvelle naissance se produit par l'action conjointe de l'eau qui est symbolisée par la parole de Dieu, pardon, qui est symbolisée par l'eau. Donc l'action conjointe de la parole de Dieu, la Bible, est l'action du Saint-Esprit. C'est une action conjointe. Le Saint-Esprit vient planter la parole de Dieu dans notre cœur. Et il fait naître la foi, il fait germer cette foi. C'est pour ça qu'il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole logos, discours, simplement écrite, mais c'est le rhéma de Dieu en hébreu. C'est-à-dire une parole qui nous est révélée, une parole qui nous est donnée, comme l'a dit notre frère tout à l'heure, à travers cette énumération qu'il faisait de ce que l'apôtre Pierre avait vécu. Il a reçu cette révélation que Jésus était le Messie par le Père. C'est par révélation qu'il a reçu cela. Et c'est sur cette confession-là, sur cette révélation-là, que l'Église, elle est fondée. C'est quand des hommes, des femmes réalisent que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité, mort pour leurs péchés et ressuscité, pour, comme gage de leur propre résurrection, d'ailleurs, et comme gage de leur justification. C'est à ce moment-là, alors que, eh bien, la nouvelle naissance se produit. C'est alors que nous faisons partie de la véritable Église de Jésus sur la terre. Toute autre Église où il n'y a pas la nouvelle naissance n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Il y a d'autres ingrédients, d'ailleurs, qui font que l'Église de Jésus-Christ est son Église. On va le voir après. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3, l'apôtre Pierre ne va pas laisser ignorer à ses lecteurs ce qui concerne ces choses-là. Et lui aussi va croire bon, avec son style à lui, de rajouter quelque chose. 1 Pierre chapitre 1, verset 3, il dira « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » Parce que Jésus est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, qu'il s'est levé du tombeau, eh bien, nous aussi, nous avons cette possibilité, quand nous croyons en lui, d'être régénérés, ressuscités spirituellement par la résurrection de Jésus-Christ. Par le même pouvoir qui a ressuscité Jésus, le pouvoir de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, eh bien, la résurrection de chaque homme, de chaque femme qui ne connaît pas Jésus est possible au niveau spirituel. Elle est possible aussi au niveau physique, mais il n'est pas dans le plan de Dieu de ressusciter tout le monde, évidemment. 1 Pierre chapitre 1 verset 23, il ajoutera « En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. » C'est une affirmation très importante parce que nos pères, bien entendu, nos parents nous ont engendrés à la vie physique, à la vie biologique, mais en même temps, ils nous ont transmis l'ADN d'Adam, qui est un ADN trafiqué, un ADN qui comporte du poison, et ce poison, c'est le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché ? Finalement originel. Est-ce que vous savez finalement quel est ce poison qui a atteint Adam ? Il est tout simple. Il y avait un jardin, il était chargé de le garder, de le cultiver, mais il y avait quelqu'un qui s'est présenté dans ce jardin, quelqu'un qui a fait irruption dans ce jardin, parce que peut-être finalement il y avait un accès déjà, peut-être quelque chose dans la mentalité de l'homme qui a permis un accès du serpent, puisque c'est lui dont il s'agit, du diable, de Satan. Et que s'est-il passé ? La première chose qu'il a dite, Dieu a-t-il réellement dit ? Et c'est ça, c'est sur cette base-là que le poison est entré dans l'homme. Dieu a-t-il réellement dit ? Quand la parole de Dieu est mise en doute, c'est là que le péché opère. Le péché a pour définition la transgression de la loi divine, c'est-à-dire de sa parole. Et le jour où l'homme a laissé cette semence-là germé en quelques secondes, il est mort spirituellement. La Bible nous dit qu'il est mort spirituellement. Il n'est pas mort physiquement, mais la mort a commencé à faire son œuvre. La corruption a commencé à faire son œuvre dans la chair humaine, et l'homme a commencé à mourir. Mais ce que dit Pierre là, c'est qu'il dit maintenant, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, donc non pas avec cet ADN-là, mais il y a un autre ADN qui a été semé en nous. Planté en nous l'ADN de Jésus-Christ, celui qui a obéi, qui a accompli toute justice de Dieu, qui a tout fait justement, qui n'a jamais péché. C'est cet ADN-là, de celui qui n'a jamais mis en doute la parole de Dieu, il est planté en nous maintenant. C'est l'ADN de Jésus. Mais grâce à une semence immortelle, en plus elle est immortelle cette semence, incorruptible, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Voilà, ça nous est dit que c'est la parole vivante et éternelle de Dieu qui a été plantée en nous. Et c'est maintenant notre ADN, notre héritage. Amen. C'est pas merveilleux de considérer ça ? Mais il est important aussi de considérer que toute organisation qui ne prêche pas la nouvelle naissance, qui n'est pas basée sur cette vérité-là, n'est qu'une organisation religieuse qui ne transforme pas l'homme, qui ne le change en aucun sens. L'Église, c'est une maison mouvante. Pourquoi ? Parce que, elle est solide quand même, mais c'est une maison mouvante. Vous avez déjà vu, les Américains déménagent leur maison. Ils ont des maisons solides, mais ils arrivent à les déménager avec une voiture et ils transportent leur maison. Moi, j'ai toujours rêvé de ça. D'ailleurs, à un moment donné, quand on souhaitait que je change de localité, je me disais, si on pouvait ne pas déménager, mais simplement emmener sa maison là où on va, qu'est-ce que ça serait bien. Les Américains, ils ont inventé ça. C'est un peuple créatif, innovateur. Et ils ont fait ça. C'est merveilleux. Et nous sommes un temple mobile, un tabernacle mobile, la maison du Seigneur. Elle est mobile ici. Nadia veut par exemple partir tout de suite en Afrique pour annoncer l'évangile, eh bien elle le peut, elle est un tabernacle mobile que le Seigneur peut envoyer en Afrique, et puis chacun de nous peut être envoyé à tel ou tel endroit. L'Église est une maison mouvante, elle se meut aussi dans l'Esprit de Dieu, elle est en mouvement, en Jésus elle a le mouvement, la vie, l'être, et l'Esprit de Dieu la conduit dans toute la vérité, et l'Esprit de Dieu transforme et taille les pierres vivante qui compose cette église-là. Il vient pour nous tailler, pour nous émonder et faire de nous une pierre précieuse, polie devant lui. Et ça, c'est aussi quelque chose de merveilleux. Il se sert des épreuves, il se sert des difficultés pour nous polir, afin que nous soyons une belle pierre, une pierre précieuse, comme le diamant, par exemple. Le diamant, il résiste aussi à tout. C'est une pierre très solide. Soyons solides comme le diamant. Soyons solides comme Jésus. Il a même dit que lui, il était tellement résolu à nous sauver, résolu à aller à la croix pour nous, qu'il a, il a durci son cœur, non, son front, pardon, comme la pierre, comme le diamant, en quelque sorte. Il s'est résolu, il s'est déterminé. Rien ne pouvait le faire faillir à cette mission-là d'aller sauver l'humanité. Et il a réussi, alléluia, parce qu'on le dit pas assez, il a réussi sa mission. L'apparente faiblesse de Dieu à la croix s'est transformée par l'aube de la résurrection, la victoire éclatante du royaume de Dieu. Et puis, deuxième point, il nous est question finalement d'un comportement, savoir comment se comporter ou se conduire, suivant les versions. Donc un comportement, une conduite spéciale est nécessaire dans la maison de Dieu. Comme nous ne sommes pas une institution humaine, comme nous venons de le voir, nous ne pouvons pas nous conduire n'importe comment, comme on le veut, selon notre imagination, du jour, ou d'humeur même du jour. Des fois, il y a des personnes comme ça, suivant l'humeur. Mais le modèle, il est comme pour Moïse sur la montagne. Il est dans la parole de Dieu, ce modèle. Et il y a un comportement adéquat dans la maison de Dieu. Puisque la maison de Dieu, ce n'est pas une salle seulement. Ça, c'est que le lieu physique qu'on a choisi avec les moyens du bord, eh bien, d'habiter, hein, pour être tous ensemble. Mais l'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est l'ensemble, nous l'avons vu, des gens qui croient en Jésus-Christ, qui ont reçu cette nouvelle naissance. C'est ça, l'église. En dehors de cela, il n'y a pas d'église. Si tout de suite, par exemple, le Seigneur venait enlever son église, comme il est promis, ben, il y a peut-être des gens qui resteraient, je ne sais pas lesquels, hein. Moi je ne sais pas quel est l'état spirituel de chacun, mais toujours est-il qu'il y en a qui resteraient. Et c'est là qu'on verrait qui est la véritable église, de ce qu'elle n'est pas, de ceux et celles qui peut-être sont dans une organisation, dans leur tête, en tout cas humaine, et ceux qui vraiment sont l'église parce qu'ils sont nés de nouveau. On le saurait, on ne va pas faire le test, hein. On ne va pas en enlever quelques-uns pour voir, parce que ce sera quand même douloureux pour ceux qui resteront. Mais je vous mets justement cet avertissement dans le cœur pour que justement personne n'ignore cette réalité et que chacun s'examine et puisse vraiment entrer dans le mouvement de l'Esprit de Dieu en recevant cette nouvelle naissance. Voilà, que chacun puisse être averti et pouvoir, eh bien, parce que le Seigneur tient compte aussi des lumières de chacun, et si nous sommes, eh bien, avertis, bah, après on est responsable aussi. Hein. Voilà. Donc il y a un comportement, une conduite spéciale, un comportement adéquat. En effet, c'est Dieu qui construit sa maison. On a vu tout à l'heure Hébreux 3, verset 6. Eh bien, Hébreux 3, verset 4 nous dit « Toute maison, en effet, est bâtie par quelqu'un. » Tous les jours, on est un peu réveillé chez moi par des coups de marteau sur des tuiles, parce qu'il y a des gens qui bâtissent une maison. Alors, elle ne se bâtit pas toute seule, il y a bien quelqu'un qui l'a bâtie. Et ce sont ces charmants ouvriers qui font un travail magnifique en face. Toute maison, en effet, est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a tout bâti, c'est Dieu. Cette maison est donc à Dieu. C'est lui qui l'a construit. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a rachetée par son sang précieux, par le sang de celui qui est la pierre angulaire de la maison, c'est-à-dire Jésus, le Christ, le Messie, celui qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient sur des fondements peut-être religieux. Ils ont rejeté Jésus parce qu'ils ne bâtissaient pas selon les fondements divins, mais selon les fondements religieux de l'époque. On parle des pharisiens, on parle de tous ces religieux juifs, mais toute organisation religieuse qui rejette Jésus, eh bien, elle rejette la pierre angulaire, elle rejette la pierre, et c'est bâtir en vain. Ceux qui bâtissent, comment c'est écrit, c'est ceux qui bâtissent... sans que ce soit l'Éternel. Oui, si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Je crois que c'est le psaume 127, verset 1, si j'ai bonne mémoire. Ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Cette maison, c'est Dieu qui l'a construite. Et sa parole nous dit qu'elle est l'épouse bien-aimée. Elle est précieuse aux yeux de Dieu, qui la garde, qui la protège comme un trésor précieux, comme une prunelle à ses yeux. Et cette pensée que Jésus, eh bien, chérit son épouse, que Dieu chérit l'épouse de Christ, cette pensée doit nous conduire à chérir ce que Dieu chérit. Donc à apprécier l'Église de Jésus-Christ, à prendre soin de l'Église de Jésus-Christ, de la maison de Dieu, et de respecter cette Église, voyez-vous. Dans l'enseignement de l'Ancien Testament, j'aime bien faire un peu de comparaison entre ce qui est dans l'Ancien et le Nouveau, il y a des gens qui allaient, et c'est souvent dénoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, ils venaient au temple, mais par habitude, parfois même avec hypocrisie, pour certains c'était un rite, enfin, il y avait certainement toutes sortes de comportements, autant qu'il peut y avoir de cœur humain. Mais par exemple, nous avons dans l'Ecclésiaste, au chapitre 5, versets 1 à 4, quelques indices. Et il est écrit, et je crois que c'est aussi valable pour nous, « Ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l'intention d'écouter. » Et écouter, ça veut dire obéir aussi. En hébreu, c'est exactement la même chose. Écouter, on écoute pour obéir. Et on obéit parce qu'on écoute. D'ailleurs, Shema Israël, Adonai, etc. C'est écoute Israël, écoute l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu est un. C'est donc le Shema Israël. C'est une prière qui est faite par le peuple d'Israël dans l'intention d'écouter Dieu et donc de lui obéir, d'obéir à sa parole. Vas-y avec l'intention d'écouter. Cela vaut mieux que d'offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas qu'ils agissent mal. Ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retard. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. C'est pourquoi tiens ce que tu promets. Moi, j'aime bien aussi qu'on tienne ses promesses. Évidemment, on est tous défaillants. Il y a bien un jour où on va oublier quelque chose. Il ne faut pas tenir rigueur à tout le monde. Mais de manière générale, on sait en qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui nous promet quelque chose et qui le fait, le jour où il se trompe, on sait qu'il ne l'a pas fait exprès. Il agit toujours selon ce qu'il dit. Donc on ne va pas lui en tenir rigueur. Ça va être un oubli. Pas non plus être. Hein. Quelqu'un a dit, ben, c'est dans la parole de Dieu, il dit ne sois pas juste à l'excès. Parfois, on y invite un pharisien avec ça. Mais je crois que le chrétien, c'est quelqu'un qui doit accomplir ses promesses, qui doit respecter la parole donnée. Quelqu'un qui doit être droit, plus droit que n'importe qui. Et ça, parfois, on ne l'a pas toujours, il faut y travailler, comme on doit travailler à toute notre sanctification. Sinon, ne faisons pas de promesses. Ne faisons pas de promesses. Et voilà ce qui arrive donc quand on vient mécaniquement à l'église, et comme eux, ils allaient mécaniquement au temple. Voilà ce qui leur est arrivé. Ils sont devenus religieux. Ils sont devenus des gens qui venaient par habitude. À cause de cette mécanique, de cette routine, leur comportement a commencé à se fausser. Et on peut prendre des habitudes et des mauvais plis dans l'église, comme celui de critiquer les autres, de dire du mal d'un tel. Ça peut devenir une habitude, et on nourrit comme une friandise qu'on s'offre. Mais c'est pas ce que Dieu veut, et on est en train de se mettre en porte-à-faux avec Dieu si on fait ça. J'avais un frère dans une église où j'ai été pasteur, je racontais d'ailleurs l'autre jour à quelqu'un, je ne sais plus qui, ce frère-là, il était toujours en train de juger un autre frère un peu faible dans la foi, mais si marrant, si attachant en même temps, ce frère. Et il me disait toujours, mais tu comprends, il n'avance pas, puis les pleurnichards et machin chose et tout. Mais j'ai dit, attends, t'étais comment toi avant? Et puis t'es pas un peu pleurnichard de temps en temps? Et je dis, tu sais ce que tu devrais faire? C'est abandonner ta loi, là, ta Torah à toi, avec tes règles, et puis que tu commences peut-être à prier pour lui et à l'aimer. Et tu vas peut-être le voir changer. Eh bien, il m'a pris au mot. C'est bien quand les frères nous écoutent. Et j'étais étonné un jour de le voir, il parlait avec amour avec ce frère-là. Et on a vu ce frère-là se lever tout doucement dans la foi. Et il a commencé même à avoir une petite responsabilité dans l'Église. Et c'est quelqu'un de très extraordinaire, ce frère. Il a eu certainement des combats terribles dans sa vie, mais ça, on a vite fait de juger, on ne va pas au fond des choses, des problèmes. On ne va pas à la racine, on préfère juger, c'est facile à ça. Mais quand on commence à prier pour quelqu'un, quand on commence à entourer l'autre de notre bras, et qu'on commence à dire, mon frère, tu n'es pas un fardeau pour moi, ah ben là, ça nous coûte un peu, mais on va voir des résultats. L'amour, la compassion, ça apporte des transformations. C'est inédit, c'est inouï, c'est extraordinaire. Dieu nous l'a dit ce matin à travers la Sainte Cène, à travers Marie qui nous parlait de cela, nous reconnaîtra les disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et ça, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est des paroles de Jésus. Donc nous devons faire attention à la manière dont nous abordons le fait de nous approcher de Dieu, dans la maison de Dieu, la manière aussi dont nous approchons nos frères et sœurs. Il y a des frères cactus des fois. Il y en a qui piquent, même des porcs qui piquent. Là, on n'ose pas les approcher. Alors il faut relever le défi, frères et sœurs. David, il est bien allé vers Goliath, on peut bien aller vers le frère cactus, ou la sœur cactus, ou la sœur porc qui pique. Hein? Je crois qu'il faut avoir le courage de s'approcher. L'amour, c'est toujours un risque, même dans... quand on se met, eh bien, quand on se marie, bah, on prend un risque. Hein? Le risque de recevoir le... Regardez, moi j'ai des bosses partout. Ou la pâtisserie, mais pas souvent sur ma tête. Parce que je suis toujours un peu en retard de quelque chose, ou voilà. On prend des risques dans, en aimant. Et nous prenons des risques, évidemment, de nous approcher des frères et sœurs porc-épic. Hein? Voilà. Donc nous avons besoin de nous aimer les uns les autres et de prendre des risques. Ne nous bornons pas à écouter la parole de Dieu, mais mettons-la en pratique, même dans ce qui ne nous plaît pas. Parce que ce qui ne nous plaît pas, ça va être une bénédiction pour nous. Nous sommes appelés à offrir un culte en esprit et en vérité. Une adoration de cœur. Alors, je disais que c'était dans l'Ancien Testament, mais on ne va pas oublier ce qui se pratique dans le Nouveau. Alors, dans le Nouveau, on nous enseigne qu'il ne faut pas oublier que c'est avec nos frères et sœurs, rachetés par Christ, qu'on se réunit. Il y en a des fois qui disent « Je vais adorer mon Dieu ». Ben non, tu ne vas pas adorer ton Dieu tout seul, tu vas avec tes frères et sœurs. J'ai déjà entendu aussi des gens dans les églises dire « Moi, je suis venu pour Dieu ». Ben non, moi je ne viens pas pour Dieu uniquement, je viens aussi pour mes frères et sœurs. C'est pas parce que j'ai pas envie de venir pour Dieu, c'est parce que Dieu m'a dit aussi dans sa parole que quand je viens dans l'église lui rendre un culte, je viens aussi pour être avec mes frères et sœurs, réunis ensemble. Communion fraternelle, c'est pas un mot comme ça qui a été mis là juste pour faire beau. On vient, donc ça fait spirituel, je viens uniquement pour mon Dieu. Comme l'autre qui disait, alors lui il était tout seul avant son culte. Je te loue Seigneur parce que je suis pas comme lui. Moi, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Oh là là. Mais finalement, la Bible nous dit que celui qui était justifié, c'est l'autre gars, parce que lui disait « Ah, peste ta colère envers moi, je suis un pécheur. » Lui, il se repentait. Il était dans l'humilité. Tandis que l'autre, il vantait ses mérites à Dieu. C'est pas ça, la louange. La louange, c'est pas parler de nous, c'est sortir de notre nombril, au contraire, pour parler de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, je sais plus où c'est, par contre, que celui qui loue Dieu, il a une raison saine. Des fois, les chrétiens, ils tournent pas en rond. Mais si vous voulez tourner rond, eh bien louez Dieu. Détournez-vous de votre nombril et de votre chair et de vos propres besoins. Occupez-vous des affaires de Dieu. Occupez-vous de Dieu, louez-le. Et lui va s'occuper de vous. Et votre tête, elle va mieux aller mieux. Vous allez voir les choses clairement. Mais tant que c'est le fouillis, ben, ça deviendra encore plus le fouillis. Hein? Mais quand on s'occupe des affaires de Dieu, on change énormément. On ne s'occupe plus de soi-même, on s'occupe même des autres. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 17, avait un souci. Il va dire, puisque j'en suis aux directives, vous voyez, il y a quand même des directives dans la parole de Dieu, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, vous voyez, c'est quand même des réunions, avec des gens, pas qu'avec Dieu tout seul, c'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Ah, la sanction, elle est bien. Le verdict, le diagnostic, il n'était pas bon là. Vous vous rendez compte, ils se réunissaient non pas pour faire des progrès, mais pour être pire qu'avant. Alors, c'est pas le but. Hein. Alors, vous avez compris que le plan de Dieu, c'est qu'on devienne mieux, qu'on se perfectionne en Jésus-Christ et non pas qu'on soit pire. Donc, on se réunit pour être pire quand on ne vient pas avec notre cœur dans la maison de Dieu. C'est ça qui nous fait être réunis pour être pire. C'est quand on ne vient pas avec notre cœur, c'est quand on est formaliste, rigide, qu'on a sa propre vision des choses, qu'on s'attache à l'apparence, quand on commence à critiquer les autres. Parce que finalement, on n'est pas en règle soi-même, alors on critique les autres, c'est plus facile. On voit plus facilement la poutre, la paille qui est dans la poutre de l'autre, que la poutre qui est dans notre œil. Et on est alors à l'affût de tout ce qui ne semble pas être parfait dans l'Église. Alors nos pensées, elles traînent au lieu de prier pendant le culte. On ne loue pas, on regarde les autres. Et on guette sur quelle proie on va peut-être se jeter à la fin du culte pour critiquer. Ou alors on va ressortir une histoire du passé. les pensées, elles traînent au lieu de prier, au lieu d'adorer et de chanter. Mais Dieu exige de nous l'obéissance à sa parole. Tout acte religieux sans obéissance est une pure hypocrisie. Tout le message des prophètes a consisté à dénoncer un peuple qui honorait les lèvres, mais qui était éloigné de Dieu au niveau du cœur. Ce qui est nécessaire dans la maison de Dieu, c'est un comportement vrai et respectueux de sa maison. C'est le troisième point, il y en a 25. Ça ne tient pas. La maison de Dieu, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, n'est pas un moulin où on fait ce qu'on veut, comme on veut. Il y a des règles, comme dans chaque maison. Et vous avez des maisons où la maîtresse de maison vous fait mettre les patins. Parce qu'elle a stické, elle vous fait mettre les patins. Ça se défend, c'est une règle, voilà, pas tout. D'autres, ben, ça va être autrement, mais peu importe. Il y a des règles. Et bien dans la maison de Dieu, il y a des règles. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 13, verset 8, ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. Voilà une des règles de la maison de Dieu, c'est qu'on doit s'aimer les uns les autres. Donc ça va au-delà des rameaux, au-delà de la critique. La critique n'a même pas sa place. C'est l'amour qui a sa place. Ça veut dire aimer inconditionnellement comme nous avons été aimés inconditionnellement. Toujours dans Romains 13, au verset 9, les règles pour la maison de Dieu sont les suivantes. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. On y revient. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Quel beau programme. Et notez bien, soyez plein d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. Ah, c'est dur. L'ardeur. N'hésitez pas. L'esprit. Soyez bouillant. Ayez du zèle et non de la paresse. Le Seigneur. Soyez le bon serviteur. L'espérance. Qu'elle soit votre joie. L'épreuve. Qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière. Qu'elle soutienne votre espérance. Votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Ayez les uns pour les autres une égale considération, sans viser à ce qui est trop haut. Laissez-vous au contraire attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages, ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même de la sœur Cactus, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici votre part, si ton ennemi a faim de lui à manger. Il y a plus de gloire à faire ça que de l'en français. Si la soif donne lui à boire, par là ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ce sont des belles règles que celles de la maison de Dieu. Nous sommes ici placés devant la loi de la réciprocité. Les uns, les autres. Quand vous lisez Romains 13, c'est les uns, les autres. Je crois qu'il y en a au moins 12 ou 13, quelque chose comme ça. Je vais compter une fois, mais je ne me souviens plus. Les uns, les autres. Usait de prévenance réciproque les uns les autres. Là, c'est parce que j'avais une traduction plus moderne qui est la Semeur, mais ayez de prévenance réciproque, mutuelle. Usez de prévenance réciproque. Faites-vous bon accueil les uns aux autres. C'est pour ça qu'on a le café croissant de temps en temps, pour se faire bon accueil les uns aux autres. Nous sommes face à la loi de la réciprocité. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, a dit Jésus. On est vite fait de se plaindre, eh bien faisons-nous aussi ce que les autres aimeraient qu'on fasse, et que nous-mêmes nous aimerions qu'on fasse pour nous. Pas de vain bavardage futile, pas de commérage, pas de ragot, ça n'a pas sa place dans la maison de Dieu. Mais si quelqu'un croit être religieux alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même, sa religion ne vaut rien. Voulez-vous être un grand illusionniste? Eh bien faites comme ça. Jacques 1, 26. Ne pas tenir sa langue en bride, c'est s'illusionner soi-même. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques 3, verset 10. Le plan de Dieu, c'est qu'il n'y ait même pas la malédiction qui sort de nos bouches, mais qu'il n'y ait que la bénédiction. Bénir, c'est important. Si nous bénissons Dieu, nous allons aussi bénir les hommes. On ne peut pas bénir Dieu et maudire les hommes. C'est impossible. sinon c'est qu'on est hypocrite. Enfin, dernier point, c'est que la parole de Dieu que nous avons lue au départ, elle nous dit que l'Église du Dieu vivant, qu'est-ce qu'elle est ? Elle est la colonne et l'appui de la vérité. En grec, c'est stulos, ça lui est le mot qui a dû donner le mot stèle. C'est une colonne, c'est un pilier. L'Église, c'est donc la colonne, c'est le pilier, c'est le soutien, c'est la base de la vérité. Toute autre Église qui n'est pas assise sur la vérité de la parole de Dieu, sur la vérité de ce que Pierre a confessé, finalement, sur Jésus, eh bien, n'est pas l'Église de Jésus-Christ. La vérité, elle est dans l'essence même de l'Église, elle est dans son ADN. C'est un attribut qui lui est communiqué par Dieu, par Jésus, qui en est la tête et qui est lui-même la vérité. Deux images sont donc utilisées ici, colonne et même rempart, parce que pilier, c'est plutôt rempart. Être une colonne, c'est donc être un témoignage, c'est être un signe visible pour le monde entier de la vérité de Dieu. C'est être le sel de la terre, c'est être la lumière de la terre. Et puis être des remparts, des piliers pour défendre la vérité, c'est proclamer avec courage le message de l'Évangile, le message de la lumière afin de détruire les œuvres des ténèbres et toute séduction qui pourrait être opérée par ces forces des ténèbres. Voilà ce qu'est l'Église, colonne et appui de la vérité. Ça, c'était l'aspect, et nous voulons nous élever. Et l'apôtre Paul, quand il a annoncé aux anciens d'Éphèse, avec ses adieux qu'il a fait aux anciens d'Éphèse, il a dit, prenez garde aux loups ravisseurs, aux loups féroces qui ne manqueront pas de survenir, etc. Mais il a dit, je vous recommande à la parole de sa grâce. Et c'est en se tenant sur la vérité, sur cette colonne qu'est la parole de Dieu, sur cet appui de la vérité qu'est la parole, que l'Église peut vaincre les séductions spirituelles, les pseudo-spiritualités, tous les loups féroces qui veulent s'introduire et s'infiltrer dans les Églises. Ce n'est que sur cette base-là que l'Église est forte. Si elle laisse un tant soit peu, eh bien, la vérité de côté, si elle ne reste pas ferme dans ce qu'elle croit, elle va être frappée au défaut de la cuirasse. Et c'est pour ça qu'il y a des églises qui s'effondrent. Je connais actuellement une église qui se divise. Et beaucoup en sont catastrophés, mais je crois qu'il faut avoir un regard beaucoup plus profond, beaucoup plus perçant. Et en y réfléchissant, je me disais qu'en me rappelant certains faits que j'avais vus dans cette assemblée, les gens ne sont peut-être pas aussi vrais dans leur rapport qu'ils en ont l'air. Et à un moment donné, eh bien, Dieu teste tout ça, Dieu teste la fidélité. Et puis les fidèles, finalement, restent fidèles. Et puis on voit les autres qui, finalement, se divisent, n'ont pas des rapports vrais avec les autres et se manifestent dans ce qu'ils sont réellement dans leur cœur. Et finalement, il y a des divisions qui sont salutaires en ce qu'elles révèlent la vraie Église. La vraie Église, c'est celle de ceux qui sont sincères, ceux qui sont authentiques, ceux qui vraiment suivent le Seigneur, mais ne se font pas un nom dans l'Église, une place, etc. Voyez-vous ? C'est cela. Et beaucoup, dans cette Église, se faisaient un peu une place. Mais les choses changent, et peut-être que ça a l'air malheureux comme ça, mais moi je dis que c'est l'œuvre de Dieu qui purifie, qui sanctifie, qui brûle la vermine, qui brûle les choses du péché, de la chair. Et nul doute aussi que parmi ceux qui ne sont pas clean devant le Seigneur, beaucoup vont être purifiés aussi, parce que ça va les nettoyer. Mais il y en a aussi qui vont se révéler tels qu'ils étaient et tels qu'ils sont, des gens qui ne suivent pas vraiment le Seigneur. Jésus est donc attaché à construire sa maison, Dieu en étant l'architecte. Prenons garde donc à la manière dont nous bâtissons dans la maison de Dieu, parce qu'il nous a associés à la construction de sa maison. Et il ne faut pas que nous bâtissions avec des matériaux de peu de valeur, des matériaux éphémères, des matériaux fragiles. Personne ne fait sa maison comme ça. Pas avec du chaume, pas avec du bois, pas avec du foin. Pardon, pas avec du chaume ni du foin. Ce sont des choses qui se consument facilement, des choses qui s'évaporent en peu de temps, qui ne durent pas, et qui symbolisent finalement tout ce qui est fait avec l'effort humain, avec la chair humaine, avec, selon l'homme. Mais il nous appelle à bâtir avec de l'or, avec de l'argent, avec du bois. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15, et c'est la conclusion, va nous dire, car nous travaillons ensemble. Ensemble, pas tout seul, rappelez-vous, pour tout remettre la chose. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume, ou du torchis de paille, mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Amen. Le thème de la maison est un thème qui revient vraiment beaucoup dans la Bible. Et on pourrait en parler, je pourrais être jusqu'à ce soir à vous en parler, mais il faut bien s'arrêter. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce thème-là. La maison de Dieu, c'est le thème presque central dans ce qu'on appelle l'ecclésiologie, c'est-à-dire l'étude de ce qu'est l'Église dans la Bible. Et Dieu nous appelle à reconsidérer sa maison, l'Église de Jésus-Christ, l'épouse bien-aimée, avec des yeux tout neufs. Demandons-lui peut-être ce matin le colis qui va nous donner la juste vision de l'Église. Soyons dans l'humilité, sachons nous repentir quand c'est nécessaire, parce que Dieu nous aime, et Dieu veut le meilleur pour son Église. Il ne veut pas qu'elle soit une Église frelatée, une Église double, pleine de duplicité, mais il veut une Église authentique. Les hommes et les femmes qui sont attachés à Jésus, mais qui en même temps vivent et marchent en lui, dans la vérité et l'authenticité. Sans quoi on peut tricher avec les hommes, on peut tromper le pasteur, on peut tromper les frères et sœurs, mais on ne peut pas tromper Dieu. Le jour du jugement nous révélera dans la nature de ce que nous sommes, c'est ce qui est écrit. Amen.